que moi j'avais dans ma liste à scanner, etc., etc. Donc ça veut dire que ce livre, c'est pas un livre à photocopier, à distribuer, c'est vraiment réservé ici, que c'est un livre de travail. Si les gens veulent l'avoir, ils viennent suivre la journée, ils sont au courant, parce que justement, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Et par exemple, il y a toutes les émotions, de, je crois que c'est là-dedans, de CNV, de communication non violente, tous les sentiments. Et ça m'ennuie vraiment que ça me trouve là, parce que je n'ai aucun droit là-dessus. Et je sais qu'ils sont assez stricts. Donc voilà un petit peu l'idée.
Mais donc le fait de venir ici n'est pas légalement, tu le vends plus en ici qu'en copier ailleurs. Tu n'as pas plus de droits que nous de copier.
Non, mais si, moi je le fais dans un truc limité pour que vous puissiez l'avoir, alors que si ça part à l'extérieur, je ne sais pas jusqu'où ça va.
Ouais, mais dans tous les cas, de toute façon, on est hors la loi.
On est hors la loi, de toute façon. Or, que je suis assez touchy par rapport à ça. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est du matériel super intéressant à avoir. Donc ça, c'est l'idée de base. Bien. Alors, c'est elle qui a appelé ça sabotage, détresse, blocage, faille, etc. Et moi, je n'ai jamais appelé ça comme ça. C'est ma liste à scanner. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un document dans lequel vous avez rassemblé un ensemble d'informations intéressantes. Vous allez voir que dans ces informations, il y a des choses que vous connaissez déjà, et puis il y en a d'autres, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Bien. Pourquoi sabotage? Parce que quand, à l'époque où on enseignait le PKP, et il y a des listes qui viennent du PKP là-dedans, PKP c'était une branche de kinésiologie qui, d'une certaine manière, suivait le touch. Au début, il y avait Touch 1, 2, 3, 4, et puis il y avait PKP 1, PKP 2, PKP 3, qui veut dire, au début ça s'appelait d'ailleurs PHP, Professional Health Provider, fournisseur professionnel de santé. Et c'est devenu PKP, Professional Kinesiology Practitioner, praticien professionnel en kinésiologie. Bon, aujourd'hui, le PKP n'est plus du tout enseigné comme il était enseigné à l'époque. Et moi, je n'ai pas du tout embrayé dans la nouvelle manière de faire du PKP pour différentes raisons éthiques. Mais il y a des listes qu'on utilisait, c'était en PKP 2, il y a des listes et un travail de sabotage qui était vachement intéressant en PKP 2. Et ce travail de sabotage est basé, entre autres, sur ce que vous apprenez en Stress Release 2 avec MAMSI, ou qu'on voit en EFT. Ça va? Mais l'idée que Bruce Dew avait mise en place, c'est que je peux avoir soit une aversion dans les sabotages, parce que c'est un sabotage, l'aversion psychologique c'est un sabotage, l'aversion massive c'est un sabotage, soit je peux avoir un conflit. Et donc, Bruce appelait ça les aversions d'attitude ou les conflits d'attitude. Et une aversion, c'est où je teste positif sur la phrase négative et négatif sur la phrase positive. Par exemple, je veux maigrir, je teste faible, je veux garder le poids que j'ai, je teste fort. Par exemple, je veux me débarrasser de ma phobie, bingo, je veux garder ma phobie fort. Ça va? Ça, c'est le truc que vous connaissez. Alors, le conflit, c'est les deux sont plus ou les deux sont moins. C'est-à-dire, je veux garder ma phobie, je veux me débarrasser de ma phobie. Ou l'inverse. Et ça, je pense que Michel vous le rajoute en Stress Release.
Ah non, non, j'ai pas eu ça à l'époque, parce que je suis tombée sur un gars comme ça, j'ai rien compris.
Ok. Et en fait, c'est à ce moment-là, on parle de conflit d'attitude. Et la manière de faire en PKP, c'est plutôt que de dire, même si je veux garder ma phobie, ou même si je veux rien, en PKP, la phrase disait, même si j'ai ce conflit d'attitude, ou même si j'ai cette inversion d'attitude. Je m'accepte totalement, je m'aime, je me respecte. Tous les machins, c'est la phrase. Donc, même si j'ai ce conflit, ou cette inversion d'attitude, eh bien ça vient du PKP. Alors, les points à tapoter par rapport à ça, ce qu'il y a aussi comme différence en PKP, que moi, j'utilise quasi jamais, c'est qu'il ne va pas nécessairement utiliser ces points-ci ou ces points-là, c'est que lui, il va tester quel point il faut tapoter, et ça peut être depuis tous les points sur le visage, tous les points sur le tronc, tous les points sur les mains. C'est tout. Mais bon, en général, si vous travaillez avec aversion et conflit, ben, utilisez les points que vous connaissez en stress release ou en EFT, c'est pareil. Les points sensibles ici, ou le 27 de rein, point du grand rond, comme on vous le dit en stress release, ou le point karaté, le 3IG, comme on vous le dit.
Et ici aussi, parce qu'en stress release, on utilise celui-là aussi.
Mais là, vous l'utilisez pour les phobies, en stress release. Donc, pas pour les stress d'aversion ou de conflit. Ça va?
Et celui-là, là?
Ça, celui-ci, ici, ça c'est pour le point gamme. On l'utilise pas là, c'est là.
Oui, c'est là.
Ça c'est le point gamme, c'est quand tu dois regarder en. Oui. Tu dois fermer les yeux, ouvrir les yeux, regarder en bas tourner, machin. Oui. Et ça, le point gamme, c'est quand ça ne diminue pas assez vite.
Oui.
Tu te souviens?
Oui, oui. Et c'est toujours obsession ou phobie.
Oui, oui, sûrement. Ça peut être dans n'importe quoi.
Oui. Peut-être savoir si c'est une inversion, hein, qui ça fait évoluer plus vite, ou de se rendre compte, ou. Par exemple, là, j'ai envie de savoir si c'est vraiment une inversion.
Mais tu le testes, hein, si je veux maigrir, je veux rester au poids où je suis.
La différence, il y en a un qui est plus fort que l'autre.
Les deux sont des sabotages. Et quand c'est une inversion, ce qu'on dit en EFT, c'est une inversion d'attitude. C'est le conscient pense un truc, mais le subconscient pense l'inverse. Mm-hmm. D'accord ? Et du coup, comme je teste le corps étant le subconscient, il te donne l'inverse. Maintenant, un conflit, c'est vraiment l'air de dire, mais il y a une partie de moi qui veut, une autre partie de moi qui ne veut pas au niveau du subconscient.
D'accord.
Ça va? Consciemment, je peux vouloir maigrir. Mais si je teste, je veux maigrir, je veux rester au poids où je suis, ça tiraille. Mais la correction est la même. Mais le truc, c'est que parfois, ça peut être intéressant de voir pourquoi ça tiraille. D'où ça vient, ce tiraillement? D'accord? Mm-hmm. Bien. Ok, donc ça c'était l'idée qui vient de PKP. Maintenant, ce bouquin-là, la manière dont il est construit, la manière de faire les choses. J'ai enlevé mes lunettes parce que je ne vois rien. On va passer en revue les pages. Voilà, regardez à la page 114. 113, énoncé 8, Schaffer, programme subconscient de sabotage. En fait, ça, c'est les phrases qui viennent de PKP, où vous avez des phrases, un nombre impressionnant de phrases qui peuvent vous aider justement par rapport à quand vous devez trouver un sabotage. Parce que en PKP, quand je démarre une séance de PKP, les sabotages font partie de ce que j'appelle les préalables. C'est-à-dire, je fais mes pré-tests et puis je fais mes préalables. Les préalables, c'est voir si, avant de travailler sur un objectif, je n'ai pas quelque chose à travailler, à nettoyer. Ça va? Et donc, les sabotages, ou les conflits, que ce soit inversion ou conflit, font partie de ces préalables. Et si je tombe sur un sabotage, un conflit, une attitude, une inversion d'attitude ou n'importe quoi, mais je vais en PKP scanner cette liste, principalement cette liste d'Albi, qui est cette liste de, vous avez un nombre incalculable de phrases que vous pouvez soit corriger comme vous le faites en EFT, soit mettre en circuit et voir ce qui est derrière dans les modes digitaux pour corriger ce sabotage.
Mais moi, je n'ai pas encore EFT et on corrige alors comme.
Mais en stress release, EFT ou stress release, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça va? Et donc, ces phrases sont là comme. Si vous les utilisez, si vous les scannez comme sabotage, ces phrases sont là un petit peu comme pour vous dire voilà, il y a. Avant de travailler sur un objectif ou quoi que ce soit, par exemple, je tombe sur la phrase je suis flexible. Ok. Comment vous allez tester ça comme sabotage? Vous avez des idées? Je scanne, j'ai un sabotage chez quelqu'un en début de séance, je scanne et je tombe sur je suis flexible. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis à la personne, voilà, il y a un sabotage sur je suis flexible. Qu'est-ce que ça vous dit? Et puis?
Ben, il faut le faire dire et tester.
Même si je suis flexible.
Je m'enregistre. Alors, elle va dire je suis flexible, et moi comment je réponds déjà?
Oui, et alors?
Ah ben, si c'est faible, ben, est-ce que c'est embêtant
Mais ça peut aller plus loin, parce que j'ai le droit d'être flexible, je mérite d'être flexible, je veux être flexible, je peux être flexible, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Donc, vous pouvez, on va y arriver, hein. Mais donc, dire je suis flexible, d'une personne à l'autre, ce sera différent.
Oui.
Dans quelle situation, donc vous pouvez préciser, et puis corriger le sabotage. Ça va ? Bien, si vous allez juste après à la page 119, vous avez aussi toute une liste de 163 sabotages. Pourquoi 163 ? Parce que ça s'est terminé le jour où le bouquin a été publié. Toujours PKP. Ça va ? Et là, de nouveau, vous avez une liste de sabotages que vous pouvez tester. J'adore le dernier. J'exerce maintenant une attraction irrésistible sur les hommes. Page 123. Ça va ? Donc, ça, c'est vraiment l'idée de ces phrases-là. C'est vraiment une idée de liste à utiliser pour travailler sur les avantages. Mais maintenant, je peux aussi très bien utiliser cette liste pour construire mon objectif. Si j'ai besoin d'un objectif verbal, je peux les utiliser pour construire l'objectif. Bien. Alors, donc ça, c'était le point de départ de ce bouquin. La feuille ici me tient déjà pas. C'était cette histoire de sabotage. Et donc, je ne sais pas si c'est marqué, mais retenez bien que ça vient du bouquin PKP. Ça vient du PKP 2. Ou 3. Je ne sais pas. Peut-être 3. Ok. Vous avez ensuite, on va tourner les pages. Et vous avez vos pages bleues, c'est ça, hein? Les pages bleues, on y arrivera après, sauf la dernière où il y a mis des mots, des mots. Vous voyez ça? Cette page-là, vous n'avez pas ça?
Non, on avait le mot de la dernière, c'est ça.
Et la première?
C'est quoi les mots?
C'est la première, hein?
Ah oui,
okay. Alors, l'idée de ce livre, donc elle, elle a structuré ce livre de cette manière-là, en disant, voilà, on peut utiliser les mots pour construire un objectif. Et ça, c'est la page bleue, la page 1 de la page bleue. Puis, vous pouvez aussi utiliser les mots pour l'inventaire des sentiments, on y reviendra, pour trouver des mots déclencheurs, pour trouver des adjectifs ou pour avoir des émotions. Ça va ? Donc ça, c'est l'idée de trouver des tas de mots. On revient à, tout, à ces pages bleues ensuite. Puis, pour ceux qui ont fait les formations professionnelles, vous voyez que les pages suivantes sont liées à la conception. Quand vous allez en récession d'âge et que vous arrivez à la conception et que vous avez besoin d'informations, eh bien, vous pouvez, ça vient du bouquin de Pamela Levine, c'est pas seulement la conception, mais c'est toute la grossesse, vous pouvez avoir des tas de stress qui peuvent sortir. Et donc, par exemple, avant la conception, vous avez des affirmations. Si vous arrivez en récession d'âge, conception, moi, quand j'arrive en récession d'âge, je descends dans les années du temps présent jusqu'à la conception. Là, soit je pars dans les générations, vous avez déjà fait ça ou pas ? Jamais, on va y arriver. Soit je pars dans ce qu'on appelle l'avant-conception pour moi, ça ce sont les autres, ça c'est moi, et que moi j'appelle la matrice. Bon, ceux qui ont fait CIPS 4, qui a fait CIPS 4 ? Là, vous pouvez utiliser toute l'imagerie de CIPS 4, le pont, etc., etc. Ça va ? Mais bon, ça, c'est un truc que j'utilise depuis 25 ans. Et donc, quand on arrive à la conception, ça peut être la conception elle-même, soit ça peut être que je dois aller avant ma conception, donc dans toute cette période où je ne suis personne au niveau physique, mais où j'existe déjà à un autre niveau. ok, et où j'ai peut-être des difficultés de faire des choix, où j'ai peut-être des difficultés à avoir un projet, où je ne suis pas d'accord avec le projet que je vais avoir, etc., etc. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'aller dans les générations, c'est-à-dire, une fois que je suis à la conception, de dire première génération, deuxième génération, troisième génération. Et les générations, ça me permet quoi? En fait, aller dans les générations, c'est pas nécessairement, c'est pas comme généalogie en AP, mais aller dans les générations, c'est pour moi, je vais vous raconter un événement perso, ou une séance perso, qui date de 88, je pense, ou 88. J'étais au Danemark avec Gordon Stokes pour l'assister. Et puis, tout le monde était en train de pratiquer. C'était un cours où les gens étaient déjà à l'aise, donc on n'avait pas besoin de moi en pratique. Et la fille Anne-Marie, qui est une amie chez qui on logeait et qui organisait le cours, me dit, écoute, on va faire une séance toutes les deux. Et donc elle me dit, mets-toi sur la table. Et puis, bon, voilà, je ne sais plus très bien... Quel était mon thème, je ne crois même pas qu'elle était liée à ce à quoi on est arrivé. Pas vraiment. Et on descend, et on descend, et on descend, et on arrive dans les générations, je ne sais plus à quelle génération. Et elle me dit, voilà, on est au 16e siècle, on calcule 4 générations. D'accord. Elle dit, ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Alors je dis, je suis dans une immense forêt, pas très très loin de l'orée de la forêt, mais quand même dans la forêt, dans une petite maison. Et j'habite seule, là, dans la maison. Je suis un ermite, quoi. Ok, dis, et comment tu vas? Je dis, ça va, mais je me pose quand même des questions sur ma vie. Ok, elle continue, et tout, elle dit, quelles questions tu te poses? Je dis, me demande, oui, les gens viennent me voir pour être guérie, un truc comme ça. Je dis, ok, et quelle question est-ce que tu te poses? Je me dis, est-ce que je vais continuer à vivre seule toute ma vie ou est-ce que je vais créer une famille? Ok, et puis elle me dit, la bonne question quand on est là-bas. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ton temps présent? Bonne question, voilà. Ça faisait des années que je voulais avoir un gosse, que j'en avais pas. 6 mois après, 9 mois après, j'étais enceinte. Et l'avantage d'aller en génération comme ça, c'est en fait pas nécessairement X génération, mais l'idée d'aller en génération souvent, c'est de prendre une distance suffisante pour aller très très loin du temps présent, pour ne plus du tout être coincé dans le temps présent, et pour avoir un regard éloigné qui permet au subconscient de faire remonter certaines choses qu'il ne ferait pas remonter si on restait dans le temps présent.
Attends, mais tu savais que tu voulais un enfant?
Oui, mais on ne travaillait même pas là-dessus, tu vois. On était, je crois qu'on était partis sur... à l'époque, on appelait ça, on jouait, quoi.
Ça t'a fait prendre conscience?
Mais ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, si je voulais un gosse, je devais peut-être choisir de bosser moins et de donner de la place à ça, quoi. Okay. Tu vois? Parce que moi, je suis une solitaire, je suis une ermite, j'aime bien vivre à mon rythme, je m'en fous des autres, je suis dans mon coin, foutez-moi la paix, bouf. Comment veux-tu comme ça si tu décides? Bon, je veux bien, je revis comme ça aujourd'hui, mais à l'époque... Si tu veux avoir un gosse, il faut qu'à un moment donné, pouf, tu t'arrêtes, quoi. Hein. D'accord?
Oui, oui.
Et moi, je suis...
Et bon. Par rapport à... est-ce que c'était toi ou c'est quelqu'un... Tu vois, tu dis que c'est différentes généalogies.
On s'en fout de ça. Ah, voilà. On s'en fout. Aller dans les générations, c'est justement, c'est ça que je veux vous faire passer comme message, c'est que aller dans les générations, souvent on se dit, ah, c'est un ancêtre qui... Non. La plupart du temps, c'est aller dans les générations, dans mon expérience, c'est juste besoin de cette distance temporelle pour pouvoir jeter un regard sur ma vie actuelle.
Mais c'est une vie que tu as inventée.
C'est une vie que j'ai inventée.
Ah oui?
Probablement. Je n'en sais rien, j'ai aucune idée.
Mais les gens vont poser des questions, tu vois, une fois que tu vas remonter là, ils vont dire comment, mais. Enfin, tu vois, alors il faut savoir.
Absolument pas. Toi, tu vas te poser des questions, mais tes clients, probablement pas.
C'est vrai?
Oui.
Ah, okay.
Parce qu'en fait, tu es dans ta séance et tu... C'est quoi? C'est la réalité? C'est l'imaginaire? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et je le dis bien aux gens, aller en génération, c'est aller dans l'imaginaire.
Ah, d'accord.
On ne sait pas ce qui va se passer. Ce n'est pas comme généalogie,
oui.
Où je calcule, etc. Ici, c'est beaucoup plus l'intuition. Et c'est vraiment se donner cette distance. Et en se donnant cette distance, on peut avoir un regard qu'on n'aurait pas sur la vie actuelle sans le faire.
La plupart du temps, moi, quand je reçois une séance de kinésie, je ne pas comme ça, je ne vois pas le lien tout de suite, justement. Tu vois. J'ai l'impression que je n'ai pas assez de recul, mais que ça vient plus tard.
Oui.
Après, je me dis, ah non, tiens.
Oui, oui, oui.
Et souvent, ça, on fait le lien après, quand même. Bon. Sur la table main, moi, je ne pense pas qu'il y
ait... La question à poser, et ça, je vous l'ai dit, c'est... Qu'est-ce, bon, de permettre à la personne de gamberger assez loin dans sa tête, hein. Oui, moi je me voyais passer tout mon temps à accueillir les gens du village qui venaient, j'ai encore les images devant les yeux, quoi. Et je me voyais solitaire, là, tous les soirs, je me retrouvais chez moi, et puis la nuit, les gens venaient me réveiller. J'étais médecin à l'époque, hein. J'étais médecin, je bossais sans arrêt, et puis je faisais mes formations en kinésio, je faisais mes formations en ostéo, et en plus je voyageais avec Gordon, et en plus j'adorais la planche à voile, et dès que j'avais un moment libre, j'étais sur la mer en train de faire la planche. Où il y a une place pour un gosse, là? Zéro, quoi. Zéro. Et donc, voilà, j'ai dû aller très très loin pour me dire, mais écoute ma vieille, regarde ta vie, quoi. Est-ce que c'est ça que tu veux? Et le fait que c'était cette ermite-là, déjà c'était pas le même sexe que moi, donc j'étais... Je pouvais vraiment me lâcher. J'étais dans toute mon histoire de l'ermite jusqu'au moment où Anne-Marie me dit, pouf, la bonne question, la question à poser, et qu'est-ce que ça a à voir avec ton temps présent?
Oui, mais généralement, c'est pas répondre à ça tout de suite. Moi, en tout cas.
Si tu t'es permis d'aller assez loin et assez loin dans ton histoire que tu crées, c'est pouf, en pleine gueule. Ça.
Moi, un jour, en séance, j'étais chez une kinésio et alors elle me dit... Oh, c'est incroyable, on monte jusqu'à la 30e génération côté maternel.
Et puis continue.
J'ai absolument rien compris, mais ça c'est déstabilisant.
Tout à fait, tout à fait.
Parce qu'elle n'en a rien fait, quoi.
Oui. Mais bon, c'est vrai que vous pouvez aussi utiliser les générations pour aller à 1, 2, 3. À ce moment-là, on est quand même plus proche de. Et on peut voir, oui, là, on a encore des liens avec les personnes. Oui. Et donc là, on peut encore. Comprendre que tiens, oui, il y a des choses qui viennent de telle personne et des, peut-être des difficultés avec telle personne. Mais quand vous allez loin dans les générations, c'est franchement plus la distance qui intervient et le regard sur ma vie depuis très loin. Et ça, c'est vraiment le subconscient qui demande ça. Le subconscient me dit, écoute, prends de la distance pour regarder ta vie. C'est exactement ça.
Mais quand c'est pas traduit par...
C'est déstabilisant.
Oui, parce que tu... Bon, je l'ai dit, j'ai été traumatisée par mes ancêtres, ou sinon on a pas eu ça. Enfin, j'en sais rien. Tu parles des élucubrations, mais
oui, tout
ne comprends pas le sens.
Tout à fait. Mais ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est le corps énergie, c'est qu'est-ce que ça vient faire. Pourquoi tu as besoin de telle distance? Est-ce que tu peux imaginer, à ce moment-là, est-ce que tu peux imaginer ce qu'elle faisait, cet ancêtre-là? C'est un homme, c'est une femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle vivait? Etc., etc. Et là, pour ceux qui ont un peu de notion de constellation familiale, mais vous pouvez même le jouer en constellation à ce moment-là.
Attends, mais on a déjà suivi la constellation avec Jacqueline Vell, mais c'est pas ça, hein, les notions.
Mais si, parce que le fait de l'avoir fait en pratique, ça te donne malgré tout un petit regard différent, mais c'est pas pour ça que tu peux faire une constellation. Ah. Mais tu peux... Enfin, parfois, moi, même avant de connaître les constellations... Je mettais les choses, je suis quelqu'un qui dans mes séances met beaucoup en scène. Et donc je fais lever la personne de la table, si je suis dans une séance de ce type-là, pas si je suis en séance de CIPS ou en séance d'AP, mais si je suis en séance de corps énergie plutôt, mais je fais lever la personne de la table, je dis ok, toi tu es là et cet ancêtre il est là. Et je dis moi je vais jouer l'ancêtre ou je joue? Et je le mets en scène. Et je dis qu'est-ce que tu penses de cet ancêtre?
Oui.
Tu vois, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Bon, je le fais parfois en imagination, mais si ça ne marche pas, je le fais en réel, dans la pièce.
Mais tu es d'accord qu'on fasse ça? Parce que moi, justement, je fais beaucoup, beaucoup de constellations.
Je ne suis pas d'accord que vous fassiez des constellations,
non,
mais je suis d'accord que vous fassiez des jeux de rôle.
Voilà, ce que tu décris, on peut.
Mais pourquoi pas?
Parce que c'est vrai que ça joue quand même avec cette notion-là et que je sais que c'est quand même très structuré.
Les constellations, c'est structuré. Ouais. Mais des jeux de rôle, pas. Les jeux de rôle, les gens le font dans leur tête. Mais s'ils le font en réalité, c'est voilà. Parfois beaucoup plus puissant.
Si toi, tu te mets à prendre un rôle dans le jeu de rôle de l'autre, ça c'est...
C'est pour permettre à l'autre... Je ne dis rien.
Ah, d'accord.
Je ne dis rien.
Ah, donc toi, tu ne vas jamais rien dire.
Je ne vais jamais ça rien va. Dire.
Ok.
Jamais. Donc, je ne joue pas à constellation dans ce cas-là.
Bah oui, mais c'est ça, jusqu'où on peut aller, c'est ça que je te demande.
La personne est là, son ancêtre est là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton ancêtre? Comment tu la vois, cet ancêtre?
C'est un homme,
c'est une femme, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vit? Il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser, alors je le mets dans la salle. Tu vois? Ou alors ce que j'utilise aussi, puisqu'on, je passe à ça, je reviens à nos générations après, ce que j'utilise beaucoup aussi dans mes séances, c'est justement de faire passer la personne de son stress à une situation où elle a des ressources et de ramener l'un vers l'autre. Ça, vous avez vu, hein? Mm-hmm. On est dû, je crois, pour faire ça maintenant. Quoi? Mm-hmm. Et je trace des cerceaux sur le sol et je dis, bon, là, c'est comment tu te sens maintenant et là, c'est comment tu as avec les ressources. Comment vous appelez ça encore, on est dû, j'ai oublié.
C'est Brigitte 3, ça.
Voilà, c'est Brigitte 3. Et vous appelez ça comment?
Activité ressources.
Voilà. Parce que moi, j'ai plus fait Brigitte 3 depuis avant que ça existe dedans. Bon.
Donc là, c'est un autre aspect de la récession d'âge, parce que là, on est carrément...
Mais c'est-à-dire que c'est une récession d'âge, mais quand j'arrive à la conception, je peux m'arrêter à la conception, ou je peux choisir d'aller dans la matrice,
d'accord, mais là,
ou d'aller en génération.
Donc en génération, en fin de compte, c'est l'influence des autres.
Mais si, non, si j'arrive première génération, à ce moment-là, c'est, tiens, on est en relation avec ta maman, là.
Donc on est sur le type de conflit, ça peut être croyances tribales, ça peut être des choses comme ça.
Ça peut être des choses comme ça, mais je dis à la personne, tu vois, c'est bizarre, on doit aller en récession d'âge, et puis c'est pas une récession d'âge dans ta vie, c'est on tombe sur ta maman. Qu'est-ce que ça a à faire ta maman ici? Bon, j'en sais rien, quoi. Je vais pas aller imposer des trucs à la personne. Mais par contre, si je suis en récession d'âge chez la mère, la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, par exemple, quelqu'un de proche, mais je vais peut-être faire mes modes digitaux. Et je vais peut-être trouver quelque chose là et je vais voir avec la personne. Écoute, c'est pas quelque chose qui est dans ta vie, entre guillemets, mais c'est clair que ça a toujours un lien avec ton temps présent. Il faut savoir que quand vous faites une récession d'âge, quelle qu'elle soit, où que vous alliez, vous n'êtes pas en récession d'âge. Vous êtes toujours dans le temps présent. C'est-à-dire que c'est faire appel quelque part à la mémoire du corps. Mais la personne est toujours dans le temps présent. Si on dit qu'il faut la ramener dans le temps présent, c'est entre autres parce que parfois la mémoire du corps reste branchée très loin, mais la personne, elle est toujours dans le temps présent. Ça va? Donc si moi, quand moi j'étais au 14e siècle là avec mon ermite, j'étais toujours moi, Dominique, sur la table, bien dans le temps présent. Et la récession d'âge, c'est un outil quelque part pour réveiller le subconscient et pour la mémoire du corps, même l'inconscient, et montrer ce qui s'y trouve. Ça va? Et donc peut-être que j'ai dans mon subconscient ou dans mon inconscient des messages qui viennent de maman, des messages qui viennent de ma grand-mère, et des choses comme ça.
Qui agissent aujourd'hui.
Et qui ont un impact, qui ont un lien avec le temps sur lequel je travaille. C'est ça une récession d'âge. C'est pas j'emmène la personne, ta 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 ta.
Une petite question. Si voilà, il y a une maman qui arrive avec son bébé 3 mois, elle n'arrive pas à pleurer.
Oui.
Et tu fais la séance à la maman, mais quelque part c'est pour l'enfant aussi. Tu vois ce qui se passe. Comment savoir si ça appartient à la maman ou à l'enfant? Si tu retombes par exemple au niveau de la naissance, etc. Faut que ce soit clair dans sa tête qu'on travaille pour l'enfant?
Pas nécessairement. Si la personne vient automatiquement avec son bébé, automatiquement, si je peux, je teste le bébé. Quand je ne peux pas, je teste la maman. Mais si je teste la maman, au départ, je demande bien à la maman si elle peut servir de transfert pour son bébé.
Elle doit toujours le toucher.
Pas nécessairement.
Non.
Pas nécessairement.
J'ai entendu dire qu'il y a moyen de mettre les transferts en circuit.
Le bébé en circuit.
Ben, que la maman touche
le bébé
et qu'on est en circuit.
Pourquoi pas, on peut faire ça.
Quand l'enfant bouge.
Mais la plupart du temps, le bébé ou l'enfant est dans la pièce, quoi.
Oui, oui.
Et donc, s'il est dans la pièce et que je teste la maman, j'ai peut-être mis le bébé en circuit pour mettre un cadre, voilà. C'est mieux. Mais
Et j'ai demandé au corps de la maman si c'était OK qu'elle serve de transfert. Si ce n'est pas OK, alors je vois d'abord avec la maman s'il y a quelque chose à faire sur elle. Et à ce moment-là, la plupart du temps, c'est le stress qu'elle a sur le stress de son bébé. Et parfois, même toute la séance passe sur la mère et le bébé, il va bien après. Alors, on sait ça. Mais bon, si on ne peut pas, on tient à se raccoucher.
Non.
Mais si on ne peut pas, à ce moment-là, je travaille sur le bébé, mais la mère est d'accord. Et donc, quand je travaille sur le bébé, ben, les choses que j'ai, c'est par rapport au bébé. Et même si c'est la mère, c'est le transfert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super bien que la mère l'entende, parce que la mère...
Et les corrections, par exemple...
Sur le bébé, si possible.
Oui.
Sur le bébé, si possible. Et même si c'est un bébé de 2 mois, et je teste la mère, je tombe sur un texte à lire. Je m'adresse au bébé, je dis, écoute, je vais te lire un texte.
Et les points
tu vas leur quoi?
Et les points cibles.
Je ne sais pas si je ferai vraiment des points cibles. Bon, j'en fais un, deux, oui, je l'ai fait sur le bébé, mais je ne vais pas faire toute une séance de cibles sur le bébé. En général, c'est des séances très courtes. Hein. Donc, oui, j'aurais peut-être un, deux points cibles, mais je ne vais pas faire une séance de 1h30 de points cibles avec 10 points cibles sur un bébé. Quoi. Ouais. Ça ne m'est jamais arrivé.
Je pense que toi, c'est des merveilles.
Ouais. Mais donc, c'est important de s'adresser à l'enfant, même s'il est en intra-utérin. En intra-utérin, j'utilise un muscle pour l'enfant, un muscle pour la mère. Donc je dis par exemple, voilà, est-ce que c'est d'accord de tester la maman comme ça? Oui, non. Et c'est d'accord de tester le bébé comme ça? Oui, non. Et donc je sais qui je teste, parce que j'ai inclus un dialogue avec le test du bébé qui est en intra-utérin, le test de la maman. Et je demande la permission aux deux.
Est-ce que tu peux aller tester
le bébé en intra-utérin? Mais s'il me donne la permission, oui. Permission de tester si tu as du stress, oui.
Et si je vais dans le stade à 8 mois et que je teste civil, c'est correct?
Mais si le bébé le demande, c'est pas moi qui vais aller m'amuser, c'est à 8 mois je vais aller tester.
Non, mais
est-ce que tu as besoin d'une information? Est-ce qu'il y a un stress et sur lequel tu veux travailler? Oui.
Parce que moi, ce que je fais avec 8 mois, c'est que ma soeur fait des séances pour elle, parce qu'elle a un gros stress, elle a un tout ça. Mais je demande quand même l'autorisation aux deux filles, si ça va, quoi.
D'accord.
Mais en même temps, quand je dis OK, permission d'arrêter là, je demande si pour elles, et généralement, elles ont besoin de quelque chose.
Oui, bien sûr.
Et là, je me dis, bon, ben, je dis, ben, alors je suis comme ça sur le moment, mais bon.
Pourquoi pas? Mais ça peut être ça, ou ça peut être peut-être aller dans les modes, et quel mode, et puis voir ce qui sort.
Ouais.
Besoin d'une information, etc., etc. Besoin d'une info, besoin d'une correction, et voir quoi. Et dans info, ben maintenant, ce bouquin-là, c'est un bouquin, une source d'info énorme. Ça va, on va y arriver. Oui.
Oui, on parle avec Jonas Lemoyne, non?
Oui.
Et on peut aller très loin.
Oui.
Et c'est où la
limite? La limite?
Non, pas la limite. La limite, la frontière, la barrière, ou la différence entre générationnel et vie précédente.
Il n'y a pas vie précédente. Sauf si la personne a dans sa tête vie précédente. Mmh. On ne teste pas les vies antérieures avec ce système-là. Mmh. Maintenant, si on arrive au XIVe siècle et que la personne pense que c'est une vie précédente, je ne vais pas aller à l'encontre de ses croyances, mais je ne vais pas non plus renforcer ses croyances. L'idée, c'est, OK... ça n'a pas d'importance que ce soit une vie antérieure ou pas une vie antérieure. L'important, c'est le temps présent, tu vois. Et les personnes qui filent tout le temps, entre guillemets, dans les vies précédentes, sont souvent des personnes qui fuient le temps présent. Et notre rôle à nous, c'est de les ramener dans le temps présent. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, on est toujours dans le temps présent. Et donc, si je vais très très loin dans les générations et que j'ai une image, ça n'a pas d'importance que ce soit une génération ou une vie antérieure. Ça n'a aucune importance. La question clé, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec ton temps présent? Et parfois, je dois juste aller chercher l'information et revenir et équilibrer dans le temps présent. Et parfois, je dois juste chercher l'information et faire la libération de stress là-bas. Que ce soit une génération, que ce soit une vie antérieure, c'est le système de croyance de la personne qui va tirer dans un sens ou dans l'autre. Ton rôle à toi, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec maintenant? C'est maintenant qui est important, c'est pas la vie antérieure. Et le corps ne peut pas te le dire. Et je vous encourage vraiment à ne pas les tester, est-ce que c'est une vie antérieure ou est-ce que c'est une génération? Non. Ça va?
Oui, parce que je vois les liens entre générationnel et mémoire cellulaire.
Oui.
Ça, c'est, je sens très fort. Et la mobilité intérieure, je ne sais pas, il y a vraiment de littérature.
Moi non plus, je ne peux pas t'en expliquer, énergétiquement peut-être, mais est-ce que les vies antérieures existent ? On n'en sait rien, etc., etc. Chacun a ses croyances par rapport à ça. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est de respecter les croyances de la personne sur la table, mais aussi de ne pas lui enfoncer des croyances dans la tête. J'ai encore un exemple que je ne vais pas citer parce que vous connaissez la personne, les deux personnes en question, mais j'ai encore un exemple récent où le fait de découvrir quelque chose a fait que la personne a complètement décompensé, quoi. Stupide. Et c'était une kinésiologue extrêmement douée et kinésiologue depuis 20 ans. Connerie.
Elle a décompensé ? Non. L'autre.
L'autre, la cliente, elle est rentrée dans ce que la kinésiologue lui a trouvé, et voilà. Mais donc, je veux dire, c'est vraiment important de ne rien suggérer, de ne rien faire croire à la personne. Ça va ? Et donc, voilà, est-ce que c'est une vie antérieure ? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le lien avec le temps présent. Et c'est là qu'on insiste. Ok ? Parce que moi, cette histoire-là, ce termite que je vois encore devant mes yeux, c'est une vie antérieure, c'est un ancêtre, on s'en fout. On s'en fout, l'important, c'est l'impact que ça a dans ma vie maintenant et comment ça a changé ma vie. Tu vois ?
C'est sûr que c'est facile à gérer, quoi. C'est très très loin, on t'approche en génération.
Mais si c'est...
des liens qui se font.
Si c'est avec un parent, un grand-parent, on arrive. En général, je dirais, on pourrait imaginer que si j'avais jusque 7 générations, ça peut être vraiment générationnel, symboliquement. Et qu'au-delà, c'est. Mais 7 générations, moi, j'ai aucune idée de. Oui, un petit peu, mais. Je sais que c'était paysan, en pays de l'islam, les réalistes, tous ces machins-là. Mais je ne sais pas grand chose d'autre. Ou d'un autre côté de la Belgique aussi, j'ai des flamands. Voilà. Je ne sais rien d'autre. Et donc. Mais à ce moment-là, quand on va aussi loin dans les générations, mais qui sont quand même proches, parce que cette génération, c'est assez proche, ça fait entre un siècle et demi et deux siècles. Ok ? Donc on peut à ce moment-là retourner voir, tiens, quelles sont les conditions de vie à ce moment-là et des choses comme ça. Et faire le lien, et imaginer, dire, c'est un homme, c'est une femme, ou okay, c'est un homme de la 7e génération, on est à telle période, au 18e siècle, ou au 17e siècle, qu'est-ce qui se passe ?
Et là, quand tu redescends dans les générations, tu ne fais pas côté mère, côté père, etc.
Je peux faire au départ, si je tombe sur génération, je peux faire mère-père, par exemple, et puis je descends, et puis je refais homme-femme. Et donc je sais que c'est un homme de la 4e génération. Ok, côté mère ou côté père. Droite, père, gauche, mère. Droite, homme, gauche, femme. Féminin, etc. etc. Et donc, voilà, mais l'important, ce n'est pas la réalité, l'important, parce que, et ça je le dis aussi aux gens, n'importe quelle expérience, je peux la vivre réellement ou je peux la vivre en imagination. Qui me dit que c'est la réalité ? Déjà dans ma vie aujourd'hui, j'imagine tellement de trucs. Le cerveau ne fait pas la différence, le cerveau enregistre les deux. Donc surtout, ne pas encourager à croire que c'est la réalité. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé ? On est au XVIIe siècle, quelque part en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, par exemple ? Et c'est là que des formations, des connaissances de type psychogénéalogie, tout peuvent nous aider, mais on ne sait pas, c'est tout. La personne, c'est elle qui doit savoir, c'est pas nous. Ça va ? Ça vous traumatise, ça, ou quoi ? Bon, on vient à notre truc. Donc, on était dans le bouquin à la page 5, et à cette page 5, donc, vous avez éventuellement quelques affirmations avant la conception. Puis, vous avez
d'autres informations, la conception, la migration, le premier mois, etc. Et donc, pourquoi vous avez ces listes-là? Ces listes-là sont là pour le cas où vous avez besoin d'informations quand vous êtes en récession d'âge. En récession d'âge intra-utérine ou en récession d'âge après la naissance, aux étapes de la naissance à partir de la page 20. Alors là, bon, les données que vous avez dans la première partie sont des données que vous avez eues en psycho. Hein.
Ouais, c'est ça.
Pour la plupart, vous les avez eues en psycho. Les données suivantes, les 7 étapes de la naissance, ce sont les 7 étapes de la naissance de Monteau, mais aussi à gauche, ce sont les 4 phases de Groff. Je ne sais pas si vous les avez eues à la page 20. Ça, ce sont les phases de Groff et de Emerson. Et puis, vous avez les 7 étapes de la naissance de Monteau.
Non, on a juste eu...
Vous avez eu quoi?
On a eu...
Monteau. À l'incapé, vous avez eu...
Attends.
Non, je crois pas.
Non. C'est Monteau.
Monteau, vous avez eu?
Ouais.
Alors, dans Monteau, il y a Alain Capé qui a fait un super résumé que moi j'utilise énormément, c'est la page 21, avec les 7 étapes de la naissance en résumé. Et donc, si vous arrivez à la naissance en récession d'âge et que vous avez besoin d'informations, vous pouvez tester les 4 stades de Groff ou les 7 étapes de la naissance de Monteau, soit en détail, soit résumé Alain Capé, et trouver des informations particulières par rapport à ça. Vous avez ensuite, ça je ne sais pas si Jacqueline vous a donné, à une époque ce n'était pas Jacqueline qui donnait le cours sur la naissance, mais c'était Erika Sénave, avec qui Jacqueline a fait sa formation, et c'est à la page 31, les difficultés pendant la naissance. Vous voyez ça? Et donc ce sont de nouveau des affirmations qui peuvent vous aider par rapport à la naissance, peuvent vous permettre de trouver des stress lié à la naissance et à des événements à la naissance. Ça va?
Il est mis à l'esprit de la mère, la péridurale, ça passe dans les placentas ou?
Ou c'est d'autres.
Non, c'est plus quand la mère est anesthésiée, est vraiment anesthésiée, comme pour une césarienne ou des choses comme ça.
Ah ben, la césarienne, c'est péridurale, hein?
Maintenant, oui.
Aujourd'hui, oui, mais dans le temps, ce n'était pas nécessairement le cas. Mais de toute façon, vous allez scanner. Hein. L'important, c'est les phrases que vous scannez, ce n'est pas le titre. Hein. Puis, les difficultés juste après la naissance. Donc, vous avez énormément d'informations liées... lié à la naissance. Ensuite, vous avez à la page 37 les énoncés de vie d'Albi. Et ça, ça vient aussi de PKP. Et là, ce sont des phrases de nouveau intéressantes par rapport aux différentes étapes de la vie. Le prénatal, la naissance à 6 mois, 6 mois, 18 mois, etc. Et là, ça va jusqu'à l'âge adulte. Donc, vous avez des phrases là jusqu'à l'âge adulte. Que vous n'avez pas nécessairement, je veux dire, c'est mis dans la zone naissance, conception, etc. Mais sachez que là aussi, vous avez des phrases liées à l'âge adulte. Bien. Puis, vous avez à la page 41 tout un travail sur le deuil, avec les différentes étapes du deuil, les étapes de la perte. Si vous avez besoin d'informations sur le deuil. Et puis, à partir de la page 47, ce sont, je ne suis pas sûre que vous ayez reçu ces phrases-là, ce sont des phrases qui ont été travaillées par différentes personnes sur, ça vient aussi de PKP, sur chacun des méridiens. Et en fait, vous avez des phrases type comme tout comme vous avez des émotions pour chaque méridien, vous avez des phrases types pour chaque méridien, avec des émotions mais des phrases. Et puis vous avez des phrases qui sont liées plus au corps physique, au corps émotionnel, à l'éducation, à la relation, à l'aspect financier et au spirituel. On verra comment on teste tout ça après, hein, comment on arrive à tout ça. Mais par exemple, si vous devez arriver là, mais vous pourriez devoir tester les points d'alarme qui vous amènent à une phrase de ceci.
Et on peut les utiliser aussi quand quelqu'un a besoin d'une métaphore.
Tout à fait, tout à fait.
Touch et métaphore, ça c'est bon aussi.
En touch et métaphore, tu peux tout à fait l'utiliser. Voilà. Mais vous allez voir que vous avez non seulement les 12 méridiens, mais à partir de la page 62, vous avez les 6 autres merveilleux vaisseaux. Non, ben vous avez les noms. Hein. Qui sont. Bon, vous avez BCVG au début et puis vous avez des merveilleux vaisseaux en plus. Bon, les titres des merveilleux vaisseaux peuvent déjà servir de métaphore. Hein. Régulateur, ceinture, vitale. Puis à la page 69.
C'est mobilité que vous dites.
Oui. Motilité ou mobilité, c'est la même chose. Ben, c'est une traduction de l'anglais. Alors, à partir de la page 69-70, là, vous avez les phrases que vous connaissez en édu, mais Josiane vous a rajouté aussi les phrases de chaque méridien de vision créative. Parce qu'en vision créative, on a pas mal de phrases en plus correspondant à chacun des méridiens.
C'est quoi la vision créative ? Je suis désolée.
Vision créative, c'est un cours d'édu qu'on peut faire après les 7D.
Ah, ok.
C'est un cours en plus. Et c'est un cours qui est assez dense et assez intéressant et qui est lié plus à la vision, mais dans un sens très très large du terme, hein, qui continue, qui est la suite aussi de Vision Circles.
Les yeux ou...
Les yeux, mais aussi la vision à un autre niveau. Ouais. Et là, donc, vous avez les phrases que vous connaissez dans les différents méridiens. Ça va, à quelle heure est-il là ?
Oh, 11h.
On arrête, on fait la pause, et puis on reprend avec Warren Jacobs après. Je ne vais pas réaliser que les études là.